Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, des soldats étaient à l'entraînement, et au moment où ils doivent commencer la partie la plus difficile de leur entraînement, l'instructeur les réunit et il leur dit, vous voyez, il y a une cloche ici au milieu de la cour, ceux qui ne voudront pas affronter toutes les difficultés qui vont suivre n'ont qu'à sonner la cloche et aussitôt nous les libérerons. Imaginez un peu si on avait tenu ce discours lorsque la France fut envahie deux fois dans le XXe siècle, nous serions aujourd'hui tous Allemands. Et c'est parce que les Américains nous donnaient la possibilité de sonner la cloche que nous sommes aujourd'hui, hélas, tous Américains et sous l'emprise de la franc-maçonnerie. Trois parties dans ce sermon. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à sonner la cloche. Deuxième partie, le sacrifice est l'âme de la vie chrétienne. Troisième partie, quelques exemples. Si je vous ai pris l'exemple de la cloche, c'est parce que tout nous pousse aujourd'hui à sonner la cloche. Parce que le monde n'a pas d'idéal, parce qu'il n'a pas d'épanouissement, parce que l'Église ne donne plus la flamme, alors nous ne savons plus où nous en sommes, et au lieu de réagir et d'agripper l'idéal, d'y revenir avec force, de le chercher, au contraire, on fuit. On fuit, on sonne la cloche parce que la vie est trop difficile, parce que la vie est lassante, parce qu'elle n'a plus de sens. Et à l'inverse, parce que notre nature blessée colle à la terre, elle n'aime pas l'idéal, elle sent très bien qu'il y a derrière cela de grandes exigences. La perfection de toute vie chrétienne et même humaine suppose évidemment un entraînement, une énergie dans l'entraînement et, pour dire le mot, un sacrifice de soi-même au service de la cause, chose qu'on a tendance à repousser et pour cela, eh bien, on sonne la cloche et on se réfugie dans tous les plaisirs facile, dans toutes les drogues, on se comporte un peu comme un ivrogne, comme un drogué, pour ne plus penser, pour ne plus réfléchir. Et Dieu sait si le monde moderne a tout fait pour nous mettre à l'aise, comme nous disons, ou pour nous donner le confort. Confort, cet horrible mot qui date seulement du XVIIIe siècle et qui était inconnu auparavant. Imaginez la vie dans la campagne, encore entre les deux guerres au XXe siècle, avec beaucoup de fermes qui n'avaient pas l'électricité, qui n'avaient pas l'eau courante, bien entendu, pas de tracteur, pas de voiture, pas de moteur, pas de téléphone, et évidemment, ni Internet, ni YouTube, ni les médias. Et pourtant, sonner la cloche, parce que c'est sonner la cloche, ça. Sonner la cloche est catastrophique, parce que cela ne nous prépare pas à la suite, parce que cela ne nous rendra que plus malheureux par la suite, parce que les exigences, de toute façon, s'imposeront, et nous serons de moins en moins préparés, et donc ce sera de plus en plus pénible, et un jour, il faudra bien accepter à moins de continuer à fuir définitivement, et à ce moment-là, c'est l'enfer, l'enfer éternel. Deuxième partie du sermon. Le sacrifice est l'âme de la vie chrétienne. Je ne vous dis pas que le sacrifice fait partie de la vie chrétienne. Je dis qu'il en est l'âme. La preuve, le Christ nous a laissé sa croix et son immolation dans le sacrifice eucharistique célébré chaque jour et, on peut dire aux belles époques de l'Église, chaque heure et chaque minute dans le monde entier, pour que nous puissions nous y unir. Lorsque le sacrifice eucharistique cessera d'être offert dans le monde, alors ce sera la fin du monde, car le monde ne peut pas exister sans la croix. La providence est bonne. Elle adapte les conditions et les circonstances de notre immolation aux nécessités qui sont les nôtres. Lorsque, juste après le péché originel, Dieu ramène Adam et Ève dans la voie du devoir, il leur demande de se consacrer de nouveau à l'œuvre qu'il leur a confiée, et les conditions changent. Désormais, pour se consacrer à la maternité, la femme engendrera dans la douleur, et la soumission à son mari sera pénible. Désormais, pour se consacrer à l'œuvre de Dieu dans le monde, le mari ne trouvera que ronces et épines, et il gagnera son pain à la sueur de son front. Et si l'on y réfléchit bien, quelle bonté de Dieu d'avoir déterminé de telles conditions pour que nous revenions à notre immolation du devoir et que nous nous consacrions au sacrifice de ce que Dieu attend de nous. La croix fait partie de la vie de famille. Si on examine bien, si on comprend bien l'enseignement de saint Paul sur la famille, où il fait le parallèle avec l'immolation de Jésus sur la croix, on voit bien que le mari détermine le sacrifice qui doit être accompli dans la famille, et la femme, avec son amour, reçoit volontiers ce sacrifice, comme le Christ a déterminé pour l'Église le sacrifice qu'il attendait d'elle, et l'Église, dans son amour, non seulement reçoit, mais fait fructifier ce sacrifice. Et ce sacrifice qui est celui des deux parents se communique aux enfants, et toute l'éducation est une éducation au sacrifice, c'est-à-dire à l'immolation, c'est-à-dire à la consécration de soi-même à l'œuvre de Dieu. Tout ce que les parents donnent ou devraient donner aux enfants, c'est les moyens pour accomplir le mieux possible l'œuvre de Dieu et s'y consacrer et sacrifier tout le reste. Voyez l'adolescent, il s'ouvre devant lui des possibilités presque infinies, en tout cas c'est comme cela qu'il les voit, des possibilités presque infinies de choix. Et parmi tous ces choix, il y en a un qu'il doit faire, c'est celui qui le consacrera le mieux au service de Dieu. Un et un seul. Il y a une scène dans l'Évangile qui nous montre bien à quel point le Christ veut pour nous la croix. Le Christ interroge ses apôtres et c'est Pierre qui donne la bonne réponse en disant « Vous êtes le Fils du Dieu vivant ». Notre Seigneur n'attendait que cette réponse pour lui confier la charge extraordinaire de pape, d'être celui qui détient les clés du royaume des cieux. Juste aussitôt après, notre Seigneur va enfoncer le clou, comme on dit, et il va annoncer sa passion. Il l'annonce comme un fait, non pas comme un désir, une éventualité, une possibilité, mais comme une réalité certaine, inéluctable. Aussitôt Saint-Pierre se rebiffe et lui dit « Seigneur, ça ne se passera pas comme cela ». Saint-Pierre ne dit pas « J'aimerais bien que, croyez-vous que, est-ce vraiment nécessaire, pourriez-vous adoucir ?» Saint-Pierre est catégorique et il dit « Non, Seigneur, ça ne se passera pas ainsi ». À ce moment-là, notre Seigneur répond à Saint-Pierre qu'il vient de choisir comme premier pape. Il lui répond « Arrière, Satan, tu es pour moi un objet de scandale ». Un objet de scandale, c'est-à-dire que tu es une pierre qui voudrait me faire trébucher. Tu voudrais me faire tomber. Notre Seigneur enfonce encore un peu plus le clou et il proclame cette vérité universelle. Quiconque veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. On voit bien là que l'œuvre de sanctification du monde ne peut s'accomplir que dans la croix, par l'immolation, le sacrifice. Trois mots qui sont synonymes, mais ce n'est pas l'objet du sermon aujourd'hui. Surtout, ne prenez pas le mot sacrifice dans le sens de peine, pénible. Prenez, mais je vous ai déjà fait un sermon là-dessus. Prenez le sacrifice dans le sens de faire du sacré ou de se consacrer à une œuvre sacrée qui est belle et qui en vaut la peine. Si le sacrifice est pénible, ce n'est pas parce qu'il est sacrifice, parce que c'est beau en soi de se consacrer à Dieu, de se consacrer à ses enfants, de se consacrer à une belle œuvre. C'est beau, ce n'est pas pénible, c'est enthousiasmant au contraire. Non, si cet enthousiasme, ou plutôt si ce sacrifice qui devrait nous enthousiasmer nous paraît pénible, c'est parce que nous sommes encore justement trop attachés aux choses de la terre et qu'il faut nous en détacher pour arriver justement à nous consacrer à la grande œuvre que Dieu attend de nous. Et ne nous y trompons pas, cette grande œuvre ne consiste pas à se détacher. Le sacrifice ne consiste pas à se détacher. Le détachement est un préalable qui permet enfin d'être libre pour se consacrer à l'œuvre de Dieu. Ce qui fait que celui qui refuse la croix, celui qui sonne la cloche, choisit là le meilleur moyen non seulement de tout rater, mais aussi d'être malheureux. Parce que celui qui rate tout est malheureux. Parce que nous sommes faits pour l'idéal, parce que nous sommes faits pour les grandes choses, parce que nous sommes faits pour Dieu, parce que nous sommes faits pour l'amour de Dieu. Croyez-vous qu'un ivrogne soit heureux? Croyez-vous qu'un drogué soit heureux? Au contraire, c'est justement parce qu'ils se rendent compte qu'ils gâchent ce que Dieu attend d'eux, qu'ils sont de plus en plus malheureux et qu'ils sombrent de plus en plus loin dans la fuite. Or, je vous l'ai dit au début de ce sermon, nous sommes des drogués de confort, des drogués de facilité. Troisième partie de ce sermon, quelques exemples. Le 8 décembre 1793, Jeanne Bécu, qui est connue sous le nom de comtesse du Barry, et qui fut la dernière maîtresse du roi de France Louis XV, est sur l'échafaud où elle va être guillotinée. C'est là une occasion extraordinairement profitable pour elle pour racheter les péchés énormes qu'elle a faits, le scandale qu'elle a donné à la France entière. Louis XV était coupable, bien entendu, mais enfin c'est elle qui l'a attiré. Au lieu de ça, elle cherche à sonner la cloche, et elle dit cette phrase célèbre « Encore une minute, monsieur le bourreau ». Et que va-t-elle gagner? D'abord, elle n'a pas gagné sa minute, et même si elle l'avait gagnée, et même si elle en avait gagné 10. Et voilà que, à cause de cela, elle perd ou elle risque vraiment de perdre le fruit de son immolation et de la belle mort que la Providence lui propose. À l'inverse, vous avez cette histoire que je vous ai souvent racontée du curé de Chanzeau, lui aussi sonne la cloche. Lorsqu'il est dans le clocher de Chanzeau, son église, le clocher est dans les flammes, ils vont tous périr dans l'incendie, les bleus proposent aux assiégés de sortir et ils auront la vie sauve, prétendent-ils. Le pauvre curé est un curé qui a d'abord prêté serment de fidélité à la constitution civile du clergé et surtout, à la république maçonnique sans Dieu. Je n'en ai peut-être pas rendu compte, mais enfin, c'est la réalité. Heureusement, très vite, il a retiré son serment pour devenir un curé exemplaire, fidèle, n'abandonnant pas ses ouailles, restant au milieu d'eux, les encourageant, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il est avec eux dans le clocher en flammes. C'était vraiment une très belle vie. Mais voilà, il aimerait quand même ne pas aller trop loin, et il sonne à la cloche. Alors le sacristain lui dit, « Monsieur le curé, vous avez ici la possibilité d'expier le grave péché que vous avez fait en prêtant serment à la Révolution, alors ne perdez pas cette occasion. » Le curé comprend, il reste dans le clocher. Peu de temps après, une balle le traverse, après avoir traversé le calice qu'il portait sur la poitrine, parce que le calice est sacré, parce que le calice, c'est ce dans quoi on célèbre la Sainte Messe, c'est-à-dire le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce prêtre voulait avoir le calice sur la poitrine. Il n'avait pas d'armes, il n'avait rien. Les autres avaient des armes. Les autres se défendaient. Lui, il avait le calice. Alors le bon Dieu signe son sacrifice, accepte son grand sacrifice. Une balle traverse le calice comme pour être sanctifié par ce calice et l'atteindre en plein cœur. Et c'est ainsi que Dieu l'unit à son propre sacrifice. Eh bien, nous, mes bien chers frères, qui choisissons-nous ? D'être comme la comtesse du Barry ou comme le curé de Chanzeau ? Encore une minute, monsieur le bourreau ? Il est manifeste que la situation dans l'Église va nous demander une grande fidélité en étant pour beaucoup d'entre nous privés de messe. Je viens de recevoir un message d'un habitant de Nouvelle-Calédonie. Il vient enfin de comprendre, avec le mondialisme, ce drame de la Révolution qui cherche à atteindre l'Église et pas seulement le monde. Il est revenu à la foi de son enfance et il me dit « Je ne suis pas marié, ma femme ou celle que j'ai avec moi n'est pas baptisée, mon enfant n'est pas baptisé, et monsieur l'abbé, que fais-je? Comment vais-je m'en sortir ?» Et nous-mêmes, mes bien chers frères, Monseigneur Lefebvre nous l'avait dit, vous ne pourrez plus avoir la messe tous les dimanches, ou bien si vous voulez l'avoir, ça sera au prix d'infidélité, du danger pour la foi, de l'équivoque. Pas seulement avec le nouveau rite de la messe, mais par une accointance avec les modernistes. Nous avons été habitués à avoir nos chapelles, nos prêtres, nos messes, et nous disons au bon Dieu, encore une minute, monsieur le bourreau, ne me privez pas encore de messe, ne me privez pas encore de prêtre, attendez un peu. Et c'est la même chose pour le pass sanitaire, et pour le vaccin, et pour le mondialisme. Alors on fait une manifestation, et on demande au bourreau, remarquez comme la comtesse du Barry parle avec respect au bourreau, monsieur le bourreau. Et nous, de même, nous sollicitons des maîtres de la Révolution qu'ils veuillent bien nous accorder encore une minute, pas tout de suite le pass, pas tout de suite le vaccin. Alors que la Providence est bien bonne, nous sommes comme ce fidèle de Nouvelle-Calédonie. Jusqu'à maintenant, nous n'avions rien vu, mais maintenant que la Révolution nous touche personnellement, dans notre corps, dans nos familles, dans nos enfants, de façon visible, parce que alors Dieu sait si elle nous a déjà touchés auparavant, mais alors là, ça fait mal. Enfin nous réagissons, et enfin nous comprenons qu'il s'agit de la révolution qui a la haine de Dieu. Et enfin nous comprenons que le problème est religieux, que le problème est sacré, qu'il s'agit ni plus ni moins C'est le thème de mes sermons depuis déjà tant et tant de dimanches, qu'il s'agit ni plus ni moins de la lutte de Satan et de tous ses complices contre Dieu et tous ses amis. Alors chaque matin, dans notre prière, chaque fois que nous allons à l'église pour le Saint-Sacrifice eucharistique, posons-nous la question. Voyons notre Seigneur Jésus-Christ à côté de nous. Écoutons la réponse que nous lui faisons. Il nous annonce sa croix. Il nous annonce qu'il veut que nous nous immolions avec lui. Que répondons-nous? Comme Saint Pierre? Et que répond Jésus-Christ? Tu as mon esprit ou tu as l'esprit de Satan? Pensons-nous comme le Christ ou pensons-nous comme Satan? Ah, les jeunes qui m'écoutez, aimez le sacrifice. Demandez à vos parents de vous faire jeûner tous les vendredis et même deux fois par semaine, le samedi en plus du vendredi, par amour de la Sainte Vierge. Soyez fiers de votre foi et de la proclamer au milieu de vos amis, de vos camarades, en classe, que sais-je, sans craindre les conséquences. N'ayez pas peur. C'est au contraire comme cela que vous serez heureux. C'est comme cela que vous serez épanoui. C'est comme cela que vous serez fier du Christ, de vous-même, parce que vous serez fier du Christ et que le Christ sera fier de vous. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.